Radio Okapi.
Rentrée scolaire effective ce lundi 1er septembre dans certains coins du pays et pas dans d'autres, vous allez le découvrir dans ce journal. Obsèques de l'ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, c'est lundi à Kinshasa. Les habitants de sa province retiennent la proximité de cet officier général avec la population. Plus de 5000 morts en deux ans. La commission justice et paix qui révèle ces chiffres des victimes du phénomène Mobondo propose une approche inclusive pour neutraliser cette milice. Barthélémy Ngwangou, membre de cette structure de l'Église catholique, est notre invité ce midi. Bonjour à tous. Commençons à Kinshasa. C'est la rentrée scolaire comme prévu dans le calendrier scolaire 2025-2026. Mais elle est plutôt timide pour ces premiers jours. Plusieurs écoles ont reçu à nouveau les élèves après la période des vacances. Mais dans la plupart de celles que nous avons visitées, c'est moins de la moitié des élèves qui est présent. Une situation que les responsables d'école et des parents lient aux rumeurs annonçant des manifestations de rue pour ce lundi. C'est le constat fait par Babel Pongo Massimango et Lucky Nzao qui ont visité des écoles à Ngalima.
La rentrée scolaire est effective, c'est ce que nous avons constaté dans la majorité des écoles où nous nous sommes rendus. Élèves et enseignants sont bien présents, c'est le cas notamment au lycée Notre-Dame de la Providence et l'épée Tobongisa Ngalema ou encore à l'école du savoir. Toutefois, dans la plupart, c'est le tiers ou même le quart des effectifs côté élèves qui a répondu présent. Une situation que les responsables d'école lient au message diffusé un peu partout sur des probables manifestations de rue ce lundi. C'est ce que confirme aussi cette mère de famille qui a préféré venir seule se rendre compte de la situation à l'école, laissant sa fillette à la maison. Dans certains autres établissements, comme à l'école maternelle Saint-Sacrement, toujours à Ngalima, la rentrée scolaire est renvoyée à lundi prochain, le temps de finaliser des travaux d'aménagement des salles de classe.
À Mbujimayi, au Kasai Oriental, le lancement, c'est lundi à l'espace Saint-Firmin, dans la commune de Lankanshi, de la rentrée scolaire 2025-2026. La cérémonie a été présidée par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics qui assume l'intérim du gouverneur de province, intérimaire en mission. Bien avant cette cérémonie de lancement, le ministère provincial de l'Éducation, en collaboration avec l'Agence belge de développement ainsi que d'autres organismes qui appuient le domaine de l'éducation au Kasai Oriental, ont effectué cet avant-midi une caravane motorisée dans plusieurs artères de la ville de Mbujimayi. Ils brandissent plusieurs calicots où l'on peut lire en tchiluba et en français « Chers parents, la rentrée scolaire 2025-2026 est fixée ce 1er septembre 2025, inscrivant tous nos enfants à l'école et ceux ayant dépassé l'âge de la scolarité dans le centre de rattrapage scolaire CRS ». Nous allons nous rendre dans la province du Maniema. Ils sont très nombreux à reprendre le chemin de l'école ce matin, plus particulièrement dans la ville de Kindu. Certains accompagnés de leurs parents, les élèves sont très contents de rejoindre leurs écoles respectives. Les parents cependant plaident auprès du gouvernement congolais afin de régulariser la situation de paye des enseignants pour que cette année scolaire ne soit pas perturbée par de mouvements de grève. Florence Kizalunga, reportage.
Toutes les rues de Kindu étaient marquées par les couleurs bleu et blanc. À l'intérieur de la cour scolaire, les enfants sont contents de se retrouver.
Je suis dans le jeu de reprendre l'école aujourd'hui. Moi, je me sens bien avec mes amis.
Je suis contente de revoir mes amis et mon enseignant.
Après les saluts au drapeau, un appel à l'engagement leur est adressé.
Chers enfants, aujourd'hui c'est la rentrée scolaire et l'année 2025-2026. Ne soyez pas distraits, mettez-vous au travail car les cours ont commencé, mes chers enfants.
Et une fois dans les salles de classe, c'est les cours qui commencent.
Pas question d'attendre les autres, ils vont nous trouver, nous débutons conformément au calendrier scolaire.
Les parents demandent au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités pour cette année scolaire qui commence.
Nos enfants débutent aujourd'hui cette année. Nous avons besoin qu'ils étudient sans interruption suite aux grèves jusqu'au 2 juillet, que le gouvernement s'assume vraiment.
Nous avons aussi constaté que dans certaines écoles, on accepte les enfants même sans fourniture scolaire. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Et à Goma, au Nord Kivu, la rentrée scolaire est effective dans plusieurs écoles publiques, conventionnées et privées. Toutefois, elle reste encore timide, même si les enseignants ont répondu au rendez-vous. Plusieurs parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école ce 1er septembre pour diverses raisons. C'est notamment le manque de moyens financiers pour acheter les fournitures scolaires, mais aussi les rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux où les Wazalendo demandaient aux parents de ne pas pouvoir envoyer leurs enfants à l'école pour raisons de sécurité. Plus de détails avec Lievin Bwinga.
Dans plusieurs écoles que nous avons visitées, les activités scolaires ont débuté timidement ce lundi 1er septembre. Les enseignants se sont présentés au travail, même si les élèves n'ont pas été nombreux dans leurs écoles respectives. En cause, selon l'un des chefs d'établissement que nous avons rencontré, le manque de moyens financiers de certains parents qui n'ont pas encore acheté les fournitures scolaires de leurs enfants, cela au vu de la situation socio-économique que traverse la ville de Goma. D'autres, en revanche, craignent d'envoyer leurs enfants à l'école à cause de la situation sécuritaire. À la veille de la rentrée scolaire, des tracts circulaient sur les réseaux sociaux demandant aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Qu'à cela ne tienne, le directeur principal de l'école primaire d'application de l'Institut Mongoma, Mwamba Bukoko John, demande aux parents à préparer leurs enfants et de les conduire dans leurs établissements scolaires respectifs, car selon lui, le calendrier scolaire a déjà débuté.
Certains parents nous ont fait voir qu'ils n'étaient pas encore prêts avec différents objets classiques, les uniformes. Demandez à tous les parents y a fait inscrire leurs enfants ici à Le Paimog, de pouvoir les envoyer à l'école de demain parce que nous n'avons pas de jours à perdre.
Il faut noter que plusieurs écoles conventionnées publiques et privées que nous avons visitées, les enseignants ont dispensé des notions générales aux élèves.
En Ituri, plus de 800 élèves déplacés de l'école Saint-Luc qui fonctionne au site des personnes déplacées de Kigunze à Bunia ont bénéficié des kits scolaires, un don de l'ONG Terre sans frontières. Cependant, dans plusieurs écoles des régions affectées par les conflits armés, la rentrée n'est pas effective. Martial Kizabiamungu nous en dit plus.
Nous ne sommes pas dans une foire, mais dans l'enceinte de l'école Saint-Luc, ici au site des personnes déplacées de Kigunze au quartier Boussipela à Bunia. Des enfants déplacés défilent à tour de rôle pour recevoir chacun un kit scolaire. Celui-ci est composé d'un cartable, des cahiers, stylos, crayons, lattes et une boîte mathématique. Pascal Mouza, chef de projet à l'Organisation internationale Terre sans frontières, explique le sens de ces gestes.
On sent vraiment la vulnérabilité. C'est plus de 7 ans maintenant que les ménages sont ici.
De quoi redonner un peu de sourire à ces enfants vulnérables qui n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Josué Boudza, élève de la troisième année primaire.
Nous disons merci des cahiers, mallettes et stylos que vous venez de nous donner. Beaucoup d'élèves en manquent, même l'uniforme et les souliers nous manquent. Nous vous remercions beaucoup.
À Iga Barrière et à l'OPAD et Centrale Soleignama, Tchabi, la rentrée scolaire n'a pas été effective. En cause, la situation sécuritaire dans ces zones où des milliers de familles ont dû fuir les exactions des groupes armés locaux et des ADF. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, en mémoire de l'ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, Chirimwami Nkuba Peter, promu lieutenant général à titre posthume, quelques habitants du Nord Kivu retiennent la proximité de cet officier général avec la population. Leur souhait est que son engagement pour le retour de la paix dans la partie est du pays connaisse un rapide aboutissement. Stanislas Djoumi.
Peter Chirimwami Nkuba était un produit de l'Académie militaire de Kananga. Avant d'être nommé gouverneur militaire du Nord Kivu dans le cadre de l'état des sièges, il avait occupé plusieurs postes stratégiques, notamment celui de commandant des opérations Sokola 1 dans le Grand Nord, où il a dirigé la traque contre les ADF, un groupe terroriste particulièrement actif dans la région de Beni et Ituri. En 2023, il est nommé à la tête de la province du Nord Kivu en remplacement du lieutenant général Constant Dima, province qu'il dirigera durant deux ans jusqu'à son décès le 24 janvier 2025 à la suite des blessures reçues au front dans les environs de Sake en territoire de Masisi. Son inhumation prévue ces jours donne l'occasion à quelques habitants de Goma de se rappeler de la personne de Peter Chirimwami. Christian Kalamo est acteur de la société civile locale.
Le fait Chirimoua Missi, à tout moment qu'on l'appelait, même au niveau de l'avenir, il venait. Au niveau des orphelinats, il venait. Au niveau des quartiers, il venait pour de simples problèmes et il donnait des solutions. En tout cas, il a été exemplaire de beaucoup de choses. Le fait Chirimoua Missi, même à 0h, quand il s'agissait des interventions, il faisait ça.
Pour beaucoup, le général Peter Chirimoua Missi était une figure centrale du dispositif militaire congolais dans l'est du pays, au regard de son dévouement à la cause nationale et de ses efforts pour contenir la menace des groupes armés.
Rendons-nous dans le territoire d'Ngandajika, province de l'Omami, où 26 familles vivent actuellement sans abri depuis samedi dernier, dans les groupements de Kaonda et de Kabala 2, dans la chefferie de Kalambayi. Cela fait suite à un incendie d'origine inconnue qui a consumé leurs habitations. C'est ce que nous rapporte Esther Ndalafina.
Les témoins affirment que c'était samedi à 16h qu'un feu d'origine encore inconnue s'est déclaré sur 8 maisons dans le village de Kaonda, dans la chefferie de Kalambayi. Pendant ce temps, les propriétaires de ces habitations étaient dans une famille éprouvée au village voisin de Benachibango. Tous les efforts pour éteindre le feu se sont avérés vains, affirme la même source. C'est ainsi que cet incendie s'est également propagé au village voisin de Kabala 2, causant des dégâts matériels importants. Ici, 18 habitations ont été consumées. Quelques familles sinistrées passent la nuit à la belle étoile. Deux parents, Alain Baya et Mireille Massengou, sollicitent une assistance humanitaire.
Les réserves de maïs, mes habits, ceux de ma femme et de mes enfants ont été consumés. Nous passons nuit à la belle étoile. Que les gouvernements nous assistent.
Signalons que cet incendie n'a pas causé de pertes en vie humaine. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, la ville de Kisangani fait actuellement face à la pénurie de produits sanguins dans les différents hôpitaux de la place, alors que les besoins y afférents sont évalués à plus de 11 000 poches de sang par an. Aujourd'hui, la coordination du programme des transfusions sanguines fonctionne largement en deçà de cette capacité. Selon le docteur Chérubin Mbongo, le manque de frais de fonctionnement à ce service étatique est à l'origine de ces dysfonctionnements. Il est au micro de Jacques Moukonkole.
Nous ne savons pas couvrir le besoin de la population de la ville de Kisangani en ce qui concerne la transfusion sanguine. Jadis, nous bénéficions du financement du Fonds mondial, de la Banque mondiale et de PEPFAR. Depuis 2014, nous n'avons plus de financement. Aujourd'hui, nous commençons à fonctionner en mode autofinancement. Donc, nous attendons faire le recyclage de collecte pour mettre à la disposition de la population le sang. Mais malheureusement, le stock, on ne sait pas couvrir le besoin. On devait financer les collectes.
Qui devait financer les collectes?
Normalement, nous sommes un service de l'État. Comme j'ai dit, l'État travaille avec le partenaire. Il y a la Banque mondiale qui finançait les activités. Aujourd'hui, on n'a pas le frais de fonctionnement. Ce qui nous pousse à ne pas accomplir notre mission qui est de rendre disponible le sang de qualité en quantité suffisante. Nous devions travailler, collecter et mettre le sang à la disposition des hôpitaux généreux. C'est ce qui ne s'est fait pas pour le moment.
Actualité internationale.
Présidentielle en Tanzanie, les petits partis entrent en campagne mais peinent à incarner une alternative. La campagne pour la présidentielle du 29 octobre s'est ouverte dans un climat verrouillé avec le principal parti d'opposition, Chadema, écarté de la course. Des petites formations tentent d'exister mais elles sont souvent perçues comme trop proches du pouvoir. Le président chinois Xi Jinping a ouvert ce lundi à Tianjin le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui réunit autour de lui les leaders russes, indiens et iraniens et de nombreux dirigeants eurasiatiques. Un sommet qui est aussi une démonstration de puissance de la part de la Chine qui se place en tant que chef de file d'un nouvel ordre mondial non occidental.
L'invité.
La commission diocésaine Justice et Paix de Kinshasa a recensé à travers son projet intitulé Lisanga plus de 5000 morts liés au phénomène Mobondo dans le Grand Bandundu, le Congo central et la ville-province de Kinshasa en l'espace de 2 ans. L'invité de Radio Okapi, Barthélémy Ngwangou, membre de cette structure de l'Église catholique, propose un processus inclusif et global pour neutraliser la milice Mobondo. Il insiste sur la nécessité d'impliquer et tous les protagonistes dans la recherche de solutions durables à cette crise sécuritaire. Barthélémy Ngwangou s'entretient avec Blaise Ndongala.
Bonjour monsieur Barthélémy Nguangou.
Bonjour, bonjour monsieur le journaliste.
Quelle analyse faites-vous de la crise sécuritaire due au phénomène Mobondo dans les grands Bandundu et une partie de Kinshasa comme du Congo central?
Nous savons que la crise a commencé au niveau de Kouamoutou pour la hausse des redevances coutumières, mais on constate que cette milice ne veut pas prendre fin jusqu'à aujourd'hui. Nous nous sommes demandé, c'est suite aux redevances coutumières qu'on doit créer une milice qui tient des armes, et aujourd'hui il y a des pertes en vies humaines. On a compris que le mode opératoire qui a commencé au niveau de Kouamoutou a évolué progressivement pour atteindre d'autres provinces voisines, entre autres le Kwango, le Kwilu, Kinshasa et puis le Congo central. Donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, la milice Mobondo continue à opérer. Alors comme ça continue à opérer, les gens continuent à perdre leur vie, on ne peut pas aussi également croiser les bras. C'est comme ça que nous invitons ceux-là qui peuvent intervenir, les obligataires publics, l'État congolais, c'est lui notre papa, c'est lui notre maman, pour mettre fin à cette crise. Nous sommes les humanitaires, nous apportons des réponses aux victimes, mais à notre niveau, on ne peut pas tout faire.
Quelles sont les causes et les conséquences des atrocités commises par cette milice?
Les causes de cette milice, c'est comme vous avez dit tantôt, c'est la hausse des redevances, donc c'est lié au foncier. Il y a l'absence totale de l'autorité de l'État. Et lorsque les chefs coutumiers vendent leur terrain, ils revendent encore, ça crée toujours des conflits entre les communautés. Et lorsque la crise de Mobondo a commencé jusqu'à ce jour, les conséquences sont manifestes. À ce jour, nous comptons plus de 5000 personnes qui ont perdu des vies. C'est-à-dire que nous continuons à documenter. C'est-à-dire que les chiffres peuvent encore augmenter. On a aujourd'hui plus de 700 000 personnes déplacées. Il y a des enfants qui sont restés orphelins. Ces gens-là ont perdu 3 saisons sans cultiver. Les écoles sont restées aux arrêts.
Donc il y a aussi des conséquences sur le plan économique.
Les conséquences sur le plan économique, mais comment produire? Puisqu'au niveau des plateaux de Bateke, c'est la forêt. Donc leur unique activité, c'est de cultiver. Aujourd'hui, il y a des zones où vous ne pouvez pas avoir accès. On vous donne des limitations. Au tas de kilomètres, vous ne pouvez pas accéder. Alors les gens ne cultivent pas. C'est pourquoi quand vous êtes sur le terrain, il y a des malnutritions qui sont là. Les enfants qui sont devenus des malnutris. La cause c'est quoi? C'est puisqu'il n'y a pas la production alimentaire. Donc les conséquences sont néfastes.
À ce stade, quelle est la part de la commission diocésaine justice et paix Kinshasa?
La part de la commission diocésaine justice et paix, nous sommes là d'abord la cohésion sociale. Il faut que les gens qui étaient habitués à vivre ensemble puissent encore revenir au même mode de vie qu'auparavant. Et on est là pour la protection communautaire. On ne peut pas comprendre aujourd'hui dans une zone où les gens vivaient tranquillement. Il y a des troubles, il y a des massacres qui se font, ça ne nous enchante pas. Et la commission justice fait aussi des plaidoyers au niveau des obligataires publics. Nous proposons les résolutions aux obligataires publics. C'est comme ça qu'on vient dans des activités pareilles pour réveiller quand même la conscience de l'État congolais. Et que c'est à lui plutôt de trouver solution à tout ce qui est comme conflit, crise, pour que la paix durable puisse régner au niveau du plateau de Bateke.
En quoi est dû les échecs de plusieurs processus de paix lancés par les gouvernements pour restaurer la paix dans l'espace en proie aux miliciens Mobondo?
La première initiative, c'était la nomination de M. Fabrice Nzombi comme facilitateur. Et comprenez que lui est déjà sous coup. Et les Teke ne pouvaient pas l'accepter facilement. C'est d'abord ces contestations-là. La deuxième initiative qui a été signée en présence du chef de l'État par l'entremise du ministère de l'Intérieur, ça n'a pas aussi également abouti. Lorsque nous avions analysé, on a compris que les initiateurs de ces processus n'avaient pas vraiment bien compris les causes profondes de la situation. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Qui il faut intégrer pour prendre fin à cette situation? Demander ses effets. Mais la troisième initiative qui a été faite à l'initiative de l'organisme international ILC, cette fois-là, on a eu quand même à signer un accord. Mais on constate qu'il y a quand même certains aspects qui n'ont pas été pris en compte. Entre autres, l'implication des acteurs principaux de la crise. Nous sommes dit, il faut mettre en place une nouvelle stratégie. Et on a rédigé un plan stratégique qu'on a déjà déposé au niveau du ministère de l'Intérieur, des obligataires publics, pour analyser. Et ensemble, on peut voir comment trouver un cadre de processus de paix. On a fait une identification des leaders communautaires, des obligataires publics qui peuvent intervenir par rapport à cette crise-là, que ce soit au niveau de la base, que ce soit au niveau de l'administration centrale. On a les volets cohésion sociale. Et par rapport à ces cadres-là, si nous mettons en place en exécution les plans stratégiques qu'on a déposés au niveau du ministère, je pense que dans peu de temps, on peut mettre fin à cette crise de Mobondo.
Monsieur Barthélémy Nguangou, nous vous disons merci.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Élisée Chikota l'a coordonné sous la supervision de Lévin Bouinga, Pierre Diassinois l'a mise en onde. Merci de nous avoir suivis.